France Culture, les matins d'été, Guillaume Erner.
Romancier subtil des voyages, voyage dans le lointain et l'infiniment proche, voyage dans l'inconnu du proche ignoré, traînant sa mélancolie au fil des pages. Acteur du siècle engagé puis dégagé, Jean Rollin revient avec un récit intrigant où se mêle un pont qui enjambe la Seine, le pont de Beson et puis une arche narrative, c'est comme ça qu'on dit, qui enjambe l'histoire familiale. Bonjour Jean Rollin.
Bonjour.
Le pont de Beson s'ouvre tout d'abord avec une carte. J'ai entendu que vous aimiez beaucoup les cartes, les plans, c'est cela ?
Oui, bien sûr, oui, j'aime beaucoup les cartes et les plans. Enfin, c'est un vice assez répandu tout de même, mais de...
Moi, je sais peut-être pas les dire. Mais alors, justement, c'est pour ça que je vous montre.
Mais d'ailleurs, en dehors du fait que j'aime beaucoup les cartes et les plans, celle-ci est quand même très succincte. Hein, mais il m'a semblé que d'une part, tout le monde ne savait pas forcément, hélas, où se trouve Pontierry-Pringy. En amont ou Gargenville en aval. Et en outre, j'ai observé quand on faisait des essais qu'elle ça formait une espèce de diagonale assez élégante, je trouve, en travers de la page d'ouverture.
Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que la Seine, c'est la seconde fois aujourd'hui qu'on parle de la Seine, mais là, on se rend compte que la Seine est sinueuse, Jean Rollin.
Oui. Je m'en suis rendu compte moi-même, puisque les distances sont effectivement, surtout d'ailleurs, surtout en aval de Paris. En amont, elle est un peu plus droite, un peu plus régulière, mais en aval, elle décrit, bon, comme chacun le sait tout de même, des méandres assez sérieux et qui multiplient de manière un peu imprévisible les distances.
Et alors, vous avez décidé de partir du pont de Beson. Lequel pont de Beson ? Je vous demande de nous le présenter, Jean Rollin.
Oui, alors l'histoire de cette prédilection pour le pont de Beson, elle est à la fois étrange et assez ancienne. En fait, je suis un grand amateur en général de moyens de transport public, mais notamment de tramways, puisque c'était il y a quelques années une nouveauté, les tramways, donc je les essayais tous les uns après les autres, et donc j'étais un usager occasionnel du T2. Qui part de la porte de Versailles et qui va jusqu'au pont de Beson. Mais en général, je ne le prenais que jusqu'à la Défense, pas plus loin. Et il y avait cette section mystérieuse du trajet du T2 qui allait jusqu'au pont de Beson. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le pont de Beson, comme terminus de la ligne du tramway T2. Et puis après, je me suis un peu renseigné et j'ai vu qu'il apparaissait modestement dans la littérature, mais enfin tout de même, il est présent dans une très belle nouvelle de Maupassant, bon, comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs, parce que la scène est très présente dans l'œuvre de Maupassant, et puis accessoirement dans un texte leur moins connu, qui est une préface de Céline, un petit ouvrage qui est un historique de Beson, et dans laquelle Céline a cette phrase relativement célèbre qui est « Chantez Beson, voici l'épreuve ».
Et c'est effectivement une forme d'épreuve, en tout cas vous en tirez brillamment, Jean Rollin, parce que on voit qu'il y a entre Maupassant et cette scène qu'on imagine à l'époque extrêmement champêtre, propice au jeu d'eau, et ce paysage gris et banlieusard tel qu'on l'imagine chez Céline, il y a comme ça un intervalle dans lequel vous glissez.
Oui, en fait, il est important de rappeler, de dire que ça se passe entre Melun et Mantes, c'est-à-dire c'est tout de même une section assez longue du cours de la Seine, assez variée. Et je m'intéresse à l'état actuel de ces berges de la Seine, pas moindrement à l'aspect historique. Alors évidemment, quand on parle de la Seine autour de Paris, on ne peut pas ne pas mentionner, par exemple, Maupassant, à un autre moment Zola, on ne peut pas ne pas mentionner l'impressionnisme, mais ça n'est pas du tout l'objet de mon livre. L'objet de mon livre, c'est quand même vraiment l'aspect que ça présente aujourd'hui. Mais si vous voulez, quand par exemple, au milieu du parking, ou d'un parking de l'usine Safran, qui fabrique des moteurs d'avion à Gennevilliers, on voit se dresser une baraque aux ouvertures murées dont on ne sait absolument pas ce qu'elle fait là, on est quand même intéressé de savoir qu'autrefois ce terrain était occupé par la maison et le jardin et le chantier naval de Gustave Caillebotte, le peintre. Et donc on se dit, est-ce que cette maison était la maison de Caillebotte ? Enfin, donc on retrouve comme ça des éléments d'histoire ancienne, mais c'est tout de même ce qui m'intéresse au départ, si vous voulez, c'était de voir à quoi ressemblait la berge de l'usine Safran. Bon. Et d'une manière générale, c'est tout ça. Enfin, c'est ce qu'on découvre découvre, par exemple, de la désindustrialisation, parce qu'on voit énormément d'usines abandonnées, en ruines, de friches industrielles. On voit quand même aussi quelques usines encore en activité, celle que je viens de mentionner, ou une énorme usine de la régie Renault à Flins, ou l'usine PSA à Poissy. On voit toutes sortes de choses qui donnent une idée, si vous voulez, de l'état actuel de la société, de ce qui se passe dans la société. On voit beaucoup de camps roms. Puisque, semble-t-il, pour des raisons diverses, d'ailleurs de commodité, les Roms ont une certaine prédilection pour les bords de rivière. On voit énormément de choses. On voit des centrales électriques désaffectées aussi. On voit des choses plus traditionnelles. On voit aussi des pêcheurs, pas tellement d'herbes, mais enfin, j'ai même eu le privilège une fois d'apercevoir un gros brochet qui faisait la sieste dans un saule. Enfin, bon, on voit des oiseaux, puisque c'est une de mes marottes. Donc, j'ai quand même observé aussi, chemin faisant, beaucoup d'oiseaux. Moins, je ne l'aurais souhaité, mais quand même plus que je ne le craignais, et ainsi de suite. Voilà.
Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, on retrouve un certain nombre de thèmes qui vous sont chers, Jean Rollin, et notamment donc la question des industries qui ont existé, mais qui se délitent. On pense par exemple à Denain, qui est un lieu là aussi qui vous est cher. Et il y a là aussi la volonté de voyager à la fois dans le lointain, parce qu'on vous connaît par exemple par votre voyage à Bethléem, mais là on vous retrouve au pont de Beson, et puis vous ne nous dites pas toute la vérité, parce que ce pont de Beson, il est là aussi parce que votre histoire familiale n'est pas si éloignée de cela.
Oui, je voulais dire, voyager dans le lointain, de toute façon, désormais, si vous voulez, dans la région parisienne, on voyage tout le temps dans le lointain. Là, il y a par exemple tout un développement consacré à la communauté kurde je ne trouve plus le nom.
Avec le PKK qui est présenté.
De Corbeil-Essonne, avec un bistrot qui est manifestement un bistrot du PKK, du Parti des Travailleurs du Kurdistan, que les gens connaissent, enfin, ou devraient connaître à travers le combat que ce parti a mené en Syrie contre Daesh, etc. Bon. Bref, donc, on voyage de toute façon, hein. On voyage dans le lointain aussi tout le temps, hein. Avec le salon de coiffure congolais kimbanguiste de Villeneuve-Saint-Georges. Enfin, bon, on voyage. C'est pas besoin d'aller loin, justement, pour
ça tombe bien par les temps qui courent. Voilà.
Et d'autre part, oui, alors, il se trouve que de manière assez fortuite, hein, je suis tombé chemin faisant sur une maison qui me rappelait quelque chose que je n'avais pas
vraiment
revu.
Fortuite?
Oui, c'était, non, je savais, mais d'autant plus fortuit, je veux dire que cette histoire familiale, elle se déroule à Carrières-sous-Bois. Or, Carrières-sous-Bois n'existe plus. Ça a été absorbé par la commune voisine et donc ça n'existe plus. Et donc c'est effectivement par hasard, je savais qu'il y avait eu une maison familiale dans le coin, mais je savais plus où. Et là, en empruntant une route au pied de la terrasse de Saint-Germain-en-Laye, je suis tombé sur cette maison. Je l'ai reconnue immédiatement parce qu'elle a une position très caractéristique et donc ça faisait ressurgir des pans d'un moment de mon histoire familiale, enfin un moment qui est intéressant, si je puis dire, parce que ça se situe à la fin de la guerre, hein, avec des gens qui ont fait de la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, qui ont fait à l'époque des choix différents, certains le bon et d'autres le mauvais. Et donc voilà, tout ça est revenu, et en plus j'ai repris contact à cette occasion avec une cousine, qui connaissait mieux que moi l'histoire familiale et avec qui voilà, enfin j'ai échangé des lettres, des mails par la suite et pas seulement sur les sujets d'histoire familiale ou aussi sur la à un moment donné nous nous sommes trouvés cette cousine et moi à avoir chacun notre nid de cygne, elle à Villeneuve-le-Roi et moi à Saint-Denis et observer les progrès de cette couvée de cygnes qui étrangement les cygnons sont nés dans son nid si je puis dire et dans le mien exactement le même jour.
Alors je ne veux pas trop en dire sur cette histoire.
Si j'étais en breton, je tirerais de ça des conclusions ésotériques. Pourquoi le même jour, le même nombre de cygnons?
Oui, et quelles autres conclusions ésotériques vous pourriez tirer?
Non, c'est absolument rien. Je dis ça parce que je suis en train de relire Odile de Raymond Queneau, où il taille un costard sous le nom d'Anglarès à André Breton. Et je pensais à l'ésotérisme de Breton, mais c'est pas...
En tout cas, on trouve dans cette histoire familiale, que je ne vais pas divulguer entièrement, mais on trouve déjà une histoire de hiérarchie sociale au sens propre, avec un empilement des classes sociales entre votre famille et une autre famille, Jean Rollin.
Oui, enfin, ma famille, d'abord, il s'agit de ma famille paternelle, et elle était assez diverse socialement, hein, puisque tout le monde n'avait pas réussi de la même façon dans cette famille à la génération de mon père, c'est le moins qu'on puisse dire, voilà. Mon père était l'élément doublement victorieux de cette famille. Puisque d'une part il avait fait des études, il était médecin il a fait toute la guerre dans le service de santé des forces françaises libres, et donc il se trouvait à la fin de la guerre auréolé d'une gloire légitime d'ailleurs, alors que au moins l'un de ses frères, peut-être celui qu'il préférait d'ailleurs, un jeune frère, avait fait lui une grosse connerie. Il s'était engagé dans la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, mais enfin il avait eu le mérite, ce jeune frère, de rattraper de lui-même sa connerie, puisque à peine déployé sur le front russe, il avait déserté je ne sais comment de la LVF, et il avait traversé seul, pour autant qu'on sache, et à pied les Pyrénées, et finalement, après un séjour par le camp de Miranda en Espagne, rejoint les forces alliées en Afrique du Nord.
C'est une histoire incroyable, comment votre famille racontait-elle cette histoire, donc engagé volontaire dans la LVF et déserteur
À vrai dire, que vous pouvez le penser, on la racontait pas. Je veux dire, en plus, mon père avait entre autres qualités celle d'être extrêmement discret, notamment sur ses mérites. Et à la fois sur ses états de service pendant la guerre et sur ce qu'il avait fait par la suite. Et donc, il a déployé une certaine énergie pour que son frère Joseph ne soit pas persécuté par des libérateurs de la 25e heure à la fin de la guerre, puisque, à mon avis, on ne pouvait rien lui reprocher, dans la mesure où, de lui-même, il avait compris son erreur et il l'avait rectifiée, sa faute était pardonnée. Mais enfin, n'empêche que je pense que si mon père, auréolé, donc lui, de sa gloire de Français libre, n'était pas intervenu pour lui éviter des ennuis, il en aurait eu probablement de sérieux. Donc c'est un épisode dont on ne parlait pas. On parlait, en revanche, la vie de cet oncle Jeff, en fait, a été marquée par d'une certaine façon par une malédiction. Il a exercé, enfin je le dis brièvement, avant la guerre déjà il avait conduit un troupeau de bœufs à travers le Sahara, enfin j'exagère un peu, mais à travers une région désertique limitrophe du Sahara, et il est arrivé en gros avec une paire de cornes. Après il a travaillé dans l'industrie automobile aux États-Unis, il a travaillé un truc assez étrange qui est la construction de la Dew Line, qui était une chaîne de radars construite par les Américains dans le Grand Nord pour essayer d'attraper au vol les bombardiers soviétique éventuel. Enfin, il a fait des métiers très étranges, assez durs généralement. Et voilà, on peut dire qu'il a payé pour ses péchés, alors que c'était par ailleurs le meilleur homme du monde.
C'est un peu une histoire à la Céline.
Oui, parfaitement. Oui. Mais c'était une chose quand même convenue de dire que le vrai voyage au bout de la nuit, c'était la vie de mon oncle Joseph. Oui, incontestablement. Bien sûr, vous y pensez. C'est vrai qu'en plus, il a, dans le voyage au bout de la nuit, il y a bien cet épisode des usines Ford. Et lui, mon oncle Jeff, a effectivement travaillé dans l'industrie automobile à Detroit. Bon, alors je sais pas pour quelle marque, mais General Motors, sans doute. Voilà. Enfin bon, bref, oui. Il a eu une vie tout à fait extraordinaire.
Lorsqu'on vous lit.
Mais malheureuse, plutôt. Oui.
Lorsqu'on vous lit Jean Rollin et lorsqu'on découvre le pont de Beson, on a nécessairement l'imaginaire de cette région-là qui est marquée effectivement par Maupassant que vous rappelez, par Céline et par la visite de lieux qui sont des lieux extrêmement ordinaires et que vous décrivez de manière extrêmement précise. On a l'impression que vous avez pris du plaisir justement à nous faire découvrir ces lieux auxquels on ne prête pas attention. Par exemple, un McDonald's qui ferme.
Si je prenais pas du plaisir, je ferais autre chose. Mais oui, bien sûr, parce que c'est. Oui, en plus, moi, je suis très attaché à ce genre de micro-événement. Bon, je me dis, tiens, voilà, c'est commode, comme j'ai l'intention de passer la nuit à veiller ce pont de Beson, j'aurai toujours la ressource de bouffer jusqu'à 1h du matin.
Ce qui est faux.
Et manque de peau, je veux dire, le jour où je dois justement l'utiliser, il ferme. Et oui, donc je trouvais ça.
Et du coup, vous avez été obligé d'aller chez Courtepaille.
Et du coup, j'ai été. Je ne porte pas chance aux établissements de restauration rapide que je fréquente, puisque vous savez, Courtepaille s'est cassé la gueule entre-temps.
Voilà, il y a eu la Covid, un dépôt de bilan. Pour Courtepaille, Jean Rollin, comment écrive-t-on ce genre de livre? Est-ce que vous décidez d'aller au pont de Beson directement? Parce que je vois votre éditeur de l'autre côté de la vitre. Il vous a envoyé, il a l'air d'être calme. Il vous a envoyé au pont de Beson? Vous avez dit que vous aviez une histoire familiale à raconter là-bas? pas. Non, parce que par exemple, Bethléem, c'est un concours de circonstances. Alors Beson, c'est plus proche que Bethléem, moins chargé peut-être symboliquement. Vous vous êtes dit, je vais là-bas. Comment ça s'est passé?
Non, mais je vous dis, en plus, ça n'est pas du tout une manière de parler pour me rendre intéressant. Le fait est que c'est au départ mon attrait pour le pont de Beson. Il tient à ce qui est écrit au fronton du tramway T2. Hein, voilà, c'est le terminus du tramway T2. Bon, c'est à ce titre-là que je connaissais le pont de Beson et je m'y intéressais. Après, je fais ce projet de décrire sur une exploration effectivement extrêmement minutieuse des berges de la Seine sur une distance limitée. Parce que pour que ce soit minutieux, il faut que ce soit limité. Bon, en gros, 50 km par la route, je précise, en aval, 50 km en amont. Bon, c'est beaucoup plus...
Il faut préciser que la route pour vous est longue, puisque vous n'avez pas le permis.
Oui, oui, non, en plus, là, je donnais les distances kilométriques de ville à ville, mais bien entendu, quand on suit le cours de la Seine, c'est trois fois plus long, vraiment. Et là-dessus, je m'aperçois déjà que Melun et Mantes, c'était à peu près symétrique, si vous voulez, c'était le gravité sur la même orbite autour de Paris, et je m'aperçois que en trichant un peu, si vous voulez, que le pont de Beson, dont le nom me plaisait, c'est surtout son nom qui me plaisait, ça évoque un peu toute une tradition de romans populistes français, de cinéma aussi, je sais pas, on imagine un peu la gueule de Jean Gabin, hein, le pont de Beson, enfin bon, moi en tout cas, bon. Et je me dis, tiens, ben voilà, le pont de Beson, je vais en faire le centre, le pivot de ce dispositif, parce qu'il est à peu près au milieu.
Il n'y a rien de plus parisien que le pont de Beson. On se dit aussi que peut-être c'est une manière pour vous de compenser la frustration de ne pas avoir été marin au long cours.
Ah oui, oui,
pont,
oui, oui,
il y a
oui,
de
oui,
l'eau.
Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Enfin, la frustration, oui, c'est un regret.
Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs, avec
non,
le
si,
mot
si,
frustration.
Non, non, mais c'est vrai que c'est un... Je pense, et j'ai toujours soutenu, peut-être légèrement, j'en sais rien, mais enfin, c'est un des rares métiers que j'aurais aimé faire, oui. En aurait j'étais capable, j'en sais rien, mais je sais qu'en tout cas, l'isolement ne m'aurait pas trop coûté. J'ai pas trop le mal de mer non plus, mais enfin, bon, bref, ça, il est trop tard maintenant. J'aimerais bien pouvoir décider encore d'aller à l'école et d'apprendre un métier, mais c'est dans ce cas, je choisirais celui-là, effectivement. Mais c'est un peu tard.
Et le fait justement que la Seine au pont de Beson soit une sorte de non-lieu, parce qu'il y a des villes qui sont tournées vers leur fleuve, on peut pas dire que la Seine soit véritablement mise en valeur là-bas.
À Beson ? Non, enfin, ni d'un côté ni de l'autre, puisque la rive opposée, c'est Nanterre. Oui, enfin, la Seine, si vous voulez, de plus en plus, et d'ailleurs d'une manière qui parfois m'irritait, parce que j'ai connu, en fait, ça fait assez longtemps que j'explore les berges de la Seine, et les endroits où j'ai connu un sentier, plus ou moins bien entretenu, etc., et qui donnait une illusion de sauvagerie, enfin, ou une illusion encore de nature. Maintenant, de plus en plus, c'est aménagé, il y a des pistes cyclables, etc. Bon, on peut pas vraiment aller contre, parce que c'est bien pour le public. Mais c'est vrai que ça ôte un peu à la poésie de ces lieux. Alors, heureusement, il y a encore quand même des segments de la qui ne sont pas aménagés, et qui sont évidemment ceux que je préfère.
Et on retrouve donc effectivement cette poésie, cet imaginaire de la Seine au pont de Beson, grâce à vous, Jean Rollin. Le pont de Beson s'est publié aux éditions POL, 8h55 sur France Culture.